matin à vous tous. Bon dimanche. Merci, c'était pour dire à Jérémy et toute son équipe, mais il ne sont que trois. Un de plus, ce serait un barbershop quartet, comme on dit en anglais. Mais quand même, on apprécie des beaux chants, n'est-ce pas, de louanges, d'encouragement, et qui nous prépare justement pour le message. Et je vois aussi que nos amigos españoles están aquí, bendiciones. Ok, alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens. Et ce matin, nous allons considérer l'introduction et les versets 1 à 11. Et vous savez, cet épître a été appelé, et avec raison, l'épître de la joie. Car les expressions telles que « joie »,« réjouissez-vous » s'y trouvent 16 fois dans 4 chapitres. Alors, le thème de la joie, nous pouvons parler de se réjouir dans les relations harmonieuses. On voit cela dans le chapitre 1. Se réjouir dans les circonstances difficiles. Paul est en prison, il est en train de se réjouir. On pourrait parler de se réjouir dans l'humilité. Nous pourrions aussi parler de se réjouir dans nos fidèles helpers. Il y en nomme deux, Timothée, Épaphrodite, etc., etc. Et notre manière aussi de voir cet épître, c'est de voir un aspect de Christ dans chacun des chapitres. Et alors, il y a quelques-uns aussi qui ont fait la division suivante. Chapitre 1, Christ ma vie. Où Paul va dire, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Chapitre 2, Christ ma pensée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Chapitre 3, Christ mon but. Paul lui parle de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Et son but, c'était de le connaître, comme nous avons chanté. Et chapitre 4, Christ ma victoire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais ce matin, j'aimerais considérer cet épître sous un autre angle, sous l'angle de l'évangélisation. Parce que, en plus que le thème de la joie, les mots évangile, la parole de vie, prêcher Christ, annoncer Christ, apparaissent 14 fois. Et dès le premier chapitre, 7 à 9 fois, justement, ces mots apparaissent. Un autre thème important aussi, c'est celui de l'unité. À travers cet épître véhiculé par les expressions telles que « même esprit, même âme », même amour, même pensée, on les retrouve 10 fois. Alors, si on met tout cela ensemble, nous pouvons intituler l'épître aux Philippiens « Connaître Christ ». Et sur le thème de l'évangélisation, le faire connaître. Parce qu'il y a la joie à connaître Christ. Il y a la joie à le faire connaître. Et tout cela devrait être fait dans un esprit d'unité et d'humilité. Alors, je vais vous donner quelques grandes lignes rapidement de cet épître en guise d'introduction. C'est un nommé Paul Apple qui a justement sorti ces grandes lignes et je me suis inspiré de ce qu'il a proposé dans ce contexte d'évangélisation. Alors, le thème principal du livre, ce serait « La vraie joie nous provient de la communion et de l'unité dans la propagation de l'Évangile en dépendant de Dieu et en cherchant à pleinement connaître Christ ». Ce serait le thème général du livre de l'Épître de Paul aux Philippiens. Et le verset clé de l'Épître, ce serait Philippiens 1, 27. Paul dit « Que je sois absent ou bien que je vienne vous voir, que j'entende parler de vous, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Ça, c'est Philippiens. Nous pouvons aussi voir rapidement quatre grandes divisions, quatre blocs, chacun avec une verset clé. Alors le bloc 1, c'est chapitre 1, verset 1 à 26, où l'idée maîtresse, la vraie communion, sert à promouvoir la propagation de l'Évangile malgré la persécution pendant que nous cherchons à exalter Christ. Et le verset clé de ce bloc, ce serait Philippiens 1, 5, la part que vous prenez à l'Évangile. Nous pouvons aussi voir un deuxième bloc dans le livre des Philippiens. La vraie unité sert à promouvoir la propagation de l'Évangile malgré la persécution pendant que nous cherchons à nous humilier nous-mêmes. Et le verset clé, ce serait le verset 1, Philippiens 1, 27. Vous demeurez fermes dans le même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Bloc 3 nous amène avec cette idée de maîtresse, chercher à connaître, être conforme à Christ. Doit être avoir la priorité sur tout, même si on nous efforce pour propager l'Évangile. Et le verset clé que j'ai cité déjà, Philippiens 3, 8, 10. Je regarde toutes choses comme une perte, Paul dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et le bloc 4, ce serait les chapitres 4, 1 à 23, où nous avons l'idée maîtresse. La communion et l'unité dans la propagation de l'Évangile nécessitent la dépendance de Dieu, tout d'abord pour la paix du cœur, et deuxièmement pour ses provisions. Et le verset clé, ce serait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors ce matin, j'aimerais considérer avec vous une sous-division du bloc 1, les versets 1 à 11 du chapitre 1 que nous allons lire maintenant. Philippiens chapitre 1, versets 1 à 11. Alors Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alors voilà notre texte pour ce matin. Nous pouvons résumer ce verset comme suit. Travaillons ensemble dans la propagation de l'Évangile, en attendant le retour de Christ. Et ce matin, nous voulons voir trois réponses que cette communion dans l'Évangile engendre. Alors tout d'abord, la communion dans l'Évangile, travailler avec d'autres, participer avec d'autres dans la propagation de l'Évangile engendre de joyeuses actions de grâce. Si vous regardez votre texte encore au verset 3, Paul va dire ceci: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Et quand nous allons au verset 4 et au verset 5, il va dire ceci: « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Vous le voyez, Paul pense à cette église impliqué justement dans la propagation de l'Évangile, et il éclate en joyeuse action de grâce envers Dieu. Et même au verset 17, où est-ce qu'il nous parle des individus qui annoncent Christ avec de mauvaises intentions, il va dire ceci: Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis. et je m'en réjouirai encore. Tout ce qui comptait pour Paul, c'est que l'évangile soit prêché. Nous pouvons nous poser une question, mais pourquoi Paul est-il si joyeux? Parce que l'évangile est annoncé. Pourquoi est-ce que le fait que cette église participe dans l'évangélisation le remplit de joie? Alors j'aimerais vous suggérer que la réponse se trouve dans Romains chapitre 1 au verset 16. Pas besoin d'y tourner. Mais dans cette épître de Paul aux Romains, Paul y va dire: je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors quand la bonne nouvelle, l'évangile est annoncée, qu'est-ce qui arrive? Les âmes sont sauvées. Ésaïe 55, 11 nous dit ceci, Dieu va dire ceci: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et nous savons que la volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Dans 2 Pierre 3, 9, l'apôtre va nous dire ceci: Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et quand les âmes sont sauvées, qu'est-ce qui arrive? La joie au ciel. Luc chapitre 15 nous dit ceci: il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors quand une âme est sauvée, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le ciel est en fête. Il y a la réjouissance au ciel pour une âme qui est sauvée. Et nous aussi, nous devrions être joyeux. Paul, il est joyeux quand il pense à cette église qui est impliquée dans l'évangélisation. Il éclate dans de joyeuses actions de grâce. Et nous aussi, nous devrons être joyeux quand l'évangile est annoncé. Pourquoi? Parce que le ciel est en fait et nous, nous sommes du ciel. Dans Jean chapitre 15 au verset 19, Jésus va dire ceci: vous n'êtes pas du monde. Et je ne veux pas dire que c'est comme quelqu'un qui est mal commode, là, s'il n'est pas du monde. Il voulait dire simplement que notre demeure n'était pas ici. Bas, on était de passage. Dans Éphésiens 1, 20, Paul va nous dire ceci: nous sommes citoyens des saints et nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et dans ce même épître de Paul aux Philippiens, il va dire ceci: notre cité à nous est dans les cieux. Et vous allez remarquer que dans Luc chapitre 15, les trois paraboles, où il y a justement le berger qui cherche une brebis égarée. Quand cette brebis est retrouvée, quand la femme qui cherche une pièce de monnaie perdue qui est retrouvée, quand le fils prodigue revient à la maison, il est retrouvé, qu'est-ce qui arrive? Le berger appelle ses amis et ses voisins. La femme appelle ses amis et ses voisines. Le père appelle le fils aîné et ses serviteurs. Et l'exhortation est toujours la même: réjouissez-vous avec moi. Que la fête commence. Parce que des perdus ont été retrouvés, des âmes ont été sauvées. J'aimerais vous poser une question ce matin. Êtes-vous un chrétien joyeux? Quelqu'un pourrait dire: mais vous ne connaissez pas mes circonstances, ce que je suis en train de vivre, il n'y a rien de joyeux là-dedans. Et vous savez que malgré les circonstances, nous sommes en route pour le ciel. Le fait que nous sommes sauvés est une raison pour être joyeux. Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc 10, 20, « Réjouissez-vous, pourquoi? Parce que vous avez gagné le gros lot? » Non, parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et dans la collectivité, l'assemblée de Cap-la-Madeleine, qu'est-ce qui nous caractérise? Sommes-nous reconnus pour une gang de heureux ou en bon québécois, une gang de chialeux? Et dans les circonstances, vous savez, la tentation est forte pour chialer. On regarde la construction, la reconstruction matérielle, physique, qui n'avance pas ou avance très, très, très lentement. Et nous aimerions que ça avance à notre rythme, à nous, le vite, 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 vite. Et ça, c'est une tentation, justement, pour être découragé. Mais ce matin, j'aimerais vous exhorter à focaliser sur notre édifice. Parfait de madame, le temple de Dieu vivant. Faites de pierres vivantes qui sont ajoutées chaque jour. Et vous réjouir que même en 2015, Dieu est en train de sauver les âmes. Et ce matin, le ciel est en fête parce qu'il y a des âmes qui sont sauvées. Et Dieu nous invite aussi à faire de même. Réjouissons, réjouissons-nous. Deuxièmement, la communion dans l'Évangile crée des solides liens d'affection. Paul va dire ceci aux Philippiens, « Je vous porte dans mon cœur. » Et au verset 8, il va dire ceci, « Je vous chéris avec la tendresse de Christ. » J'aime beaucoup la traduction de la Bible en français courant. Cette traduction va dire ceci, « Je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. » On dit souvent on aime quelqu'un avec nos tripes. Ça vient d'en dedans. Enfin, c'est cette même expression ici. Paul dit, j'ai une profonde sentiment d'affection en Jésus-Christ pour vous autres. Et cette affection va transpirer à travers l'épître. Il va parler de ces Philippiens comme ses frères. Et même mes très chers frères. Et ça, c'est une belle expression qui nous montre une relation familiale. Et l'amour et l'affection que les membres d'une même famille devraient avoir les uns envers les autres. Et aussi, Paul, il va appeler ses chrétiens comme ses bien-aimés. Combien de fois on lit, il dit, mes bien-aimés, pour démontrer justement qu'il y avait une place spéciale dans son cœur. Alors ici, Paul entretient des liens d'affection pour les croyants de Philippe. Et vous savez que ces liens d'affection sont intimes, ils sont solides et ils ne sont pas affectés par les circonstances. Parce qu'au verset 7, il va dire ceci, « Je vous porte dans mon cœur, sois dans mes liens. » Même si je suis dans en prison, dans les circonstances difficiles, mon attachement pour vous, « Je vous porte dans mon cœur » n'est pas affecté. Et aussi au verset, même le même verset, il dit, même dans la défense et la confirmation de l'Évangile, et même si quand je suis un homme libre, qu'importe, je reste attaché à vous, mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, je vous porte dans mon cœur, je vous chéris. On pourrait se poser la question maintenant, d'où vient cet attachement de la part de Paul pour les Philippiens? Cet attachement que même les circonstances n'arrivent pas à ébranler. J'aimerais vous suggérer que la réponse se trouve au verset 6, où Paul regarde l'Église et il voit quelque chose d'extraordinaire. Il va leur dire, « Je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Paul voit Dieu à l'œuvre, attaché à cette église. Dieu l'avait fait naître par la prédication de l'apôtre. Vous allez vous rappeler en Actes, chapitre 16. La bonne œuvre que Dieu avait commencée dure maintenant était en train de persévérer avec eux, à travers eux, dans la propagation de l'Évangile. Et Dieu rendait cette œuvre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et vous savez ce que Dieu était en train de faire avec cette Église? C'est un merveilleux exemple de la grâce de Dieu. Parce qu'il va le dire, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Et j'aimerais faire le lien ici avec l'attachement de Paul pour l'Église et le fait que l'œuvre que Dieu était en train de faire, qui avait commencé avec cette Église et qui était en train de faire, et la grâce maintenant qui est manifestée à travers cette œuvre. Alors l'Église avait été sauvée par Dieu, par la prédication de l'Évangile, et la grâce de Dieu était évidente pour amener ces personnes qui étaient dans les ténèbres à son admirable lumière, par pure grâce. Et malgré leurs imperfections, parce qu'ils ne sont pas devenus des saints avec des ailes et un halo, ils étaient quand même des gens comme vous et moi, sauvés par grâce, mais avec nos imperfections. Et on voit Dieu qui persévère avec cette Église. Il a commencé une bonne œuvre et Paul dit, il va le rendre parfaite pour le jour de Christ. Dieu ne va pas abandonner, il est attaché à vous. Et par sa grâce, en vous et à travers vous, il est en train de faire une œuvre. Et par sa grâce, il persévère avec vous. Et par sa grâce, vous êtes en train de persévérer avec Dieu. Et qu'est-ce que Paul fait? Il fait la même chose. Il va imiter son maître. Paul est conscient que lui-même a bénéficié de la grâce de Dieu. Il va parler dans une autre épître comment est-ce qu'il était un homme violent, un blasphémateur, et ainsi de suite, et comment est-ce qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu. Et en retour, voilà maintenant la raison pour son attachement à cette Église. En retour, il use de grâce envers cette Église. Il va démontrer de façon pratique dans son attachement pour eux qu'il connaît vraiment, il a saisi la grâce de Dieu et il reste attaché malgré tout ce qu'il pouvait vivre, malgré tout ce qui était dans cette Église. Paul dit, je suis attaché à vous. Je vois la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Et de façon réciproque, moi aussi, je use de grâce envers vous. Je persévère. Dieu persévère avec vous, moi aussi, je vais persévérer avec vous et je reste attaché. Et vous savez, ça devrait être une source d'encouragement pour nous ce matin. Dieu a commencé une bonne œuvre ici, dans cette assemblée, dans l'église de Cap de la Madeleine. Et malgré ce que nous venons de vivre, ce que nous avons vécu, il est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans cette Église. Et Dieu va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Et pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Et Stéphane l'a dit ce matin. Il est le même Dieu gracieux hier. Il est le même Dieu gracieux aujourd'hui. Il est le même Dieu gracieux éternellement. Dieu persévère avec nous dans sa grâce. Et dans sa grâce, nous allons persévérer avec Dieu. Et juste une application pratique. À l'exemple de Dieu et à l'exemple de Paul, nous qui avons bénéficié de la grâce de Dieu, usons de grâce les uns envers les autres. Persévérons les uns avec les autres. Restons attachés les uns aux autres. Et tout cela à cause de la grâce de Dieu. Et troisièmement, la communion dans l'Évangile, participer avec d'autres dans la propagation de l'Évangile, engendra un fervent ministère de prière. Un fervent ministère de prière. Au verset 9, au verset 4, Paul va dire ceci, ne cessant dans toutes mes prières pour vous. Et au verset 9, ce que je demande dans mes prières. Alors, Paul va nous démontrer qu'il exerce un ministère de prière à l'égard de l'Église à Philippe, cette Église qui est si impliquée dans l'évangélisation. Et avez-vous remarqué qu'au verset 9, Paul il ne prie pas pour le message. Il aurait pu demander à Dieu que Dieu fasse une œuvre extraordinaire, cette Église qui est évangélisée, la part que vous prenez à l'Évangile, et vous pourrez aller devant Dieu et dire, « Je veux que tu sauves, Seigneur, l'Évangile est annoncé, sauve des âmes. » Il ne demande pas cela. Tout cela est souhaitable. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas demander au Seigneur d'agir et de sauver des âmes. Mais Paul, il va, au lieu de prier pour le message, il prie plutôt pour les messagers. Et une raison pour cela. Michel, il le dit souvent. Le messager, c'est le message. Autrement dit, le messager devrait être caractérisé par le message de l'Évangile. Comme quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas amener quelqu'un plus près de la croix que vous l'êtes vous-même. Et Paul ici, il va prier maintenant pour les messagers. Vous allez constater, on va les regarder sur des choses qu'il va demander. Pour les messagers, c'est ce qui se trouve exactement dans le message de l'Évangile. Et il est en train de dire ici, vous annoncez l'Évangile, c'est bien, mais votre message va être plus crédible et plus percutant si vous êtes en train de vivre l'Évangile. Alors, la première chose qu'il demande, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Pourquoi? Parce que le messager, chers amis, devrait être caractérisé par l'amour. Jésus a dit ceci à tous, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et quel est le plus grand commandement? Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le messager qui amène justement un message d'amour parce que l'Évangile, c'est un message d'amour. Une des facettes de l'Évangile, ce message d'amour. Bien sûr, aussi, il y a la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Mais nous parlons aussi aux gens de la part de Dieu, de l'amour de Dieu. Et le beau texte que nous trouvons dans Jean 3, 16, que je sais que vous pouvez tous répéter par cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Essaye de mettre justement, quantifier cela, impossible. Un amour incommensurable. Et le texte dit qu'il a donné son Fils. Ça, c'est jusqu'à quel point que Dieu a aimé. Le grand amour de Dieu pour les âmes, jusqu'au point qu'il a sacrifié son Fils pour les sauver. Et Paul dit à ses chrétiens, je veux prier pour vous parce que vous participez dans l'Évangile, vous devrez aussi être caractérisés par la même qualité d'amour. Deuxièmement, le messager devrait être caractérisé par la connaissance intelligente de Dieu. Le texte dit ceci, il va demander que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et quel contraste avec une connaissance juste ici intellectuelle qui va aboutir justement à une connaissance superficielle de Dieu. Alors ici, Paul parle d'une connaissance de Dieu qui est vraie, qui est intime, pas seulement au niveau de la tête, mais au niveau du cœur, et alimentée par un désir profond de mieux connaître Christ. Et au chapitre 3, il va parler de ceci, cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui le motive à mieux le connaître. Ça, c'est la connaissance intelligente de Dieu. Et ça, ce n'est pas étonnant. Parce que l'Évangile est annoncé avec un but, pour que les gens puissent avoir une connaissance intelligente de Dieu. Jean 17, 3, Jésus va dire ceci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus ne parlait pas ici d'une connaissance intellectuelle ou superficielle. Il parlait de vraiment connaître Dieu, une connaissance intelligente. Et c'est ce qu'il disait aussi pour les messagers. Troisièmement, le messager doit être caractérisé par le discernement spirituel. Il va continuer dans sa prière pour les croyants, pour le discernement, les choses les meilleures. Remplis votre amour, augmente de plus en plus en toute connaissance et intelligence spirituelle avec un but, pour le discernement des choses les meilleures. Qui veut dire quoi? Simplement, c'est d'avoir les priorités à la bonne place. Et comment faire cela? Vivre en vue de l'éternité et non pas pour le siècle présent. En d'autres mots, vivre selon la volonté de Dieu. Romains 12, 2, qui est bon, agréable et parfait. Et c'est exactement ce que l'Évangile appelle les gens à faire. Prioriser le salut de leurs âmes. User du discernement. Et nous avons des beaux textes. Amos 4, 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est d'être, avoir les priorités à la bonne place. 2 Corinthiens 6, 2 nous dit ceci, voici maintenant le jour favorable, voici maintenant le jour du salut. Ça, c'est d'avoir les priorités à la bonne place. User le discernement spirituel. Hébreux 2, 3 nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ça, c'est ce que l'Évangile appelle les gens à faire. Utiliser un discernement spirituel en vue, justement, de vivre en vue de l'éternité. Et Paul veut que ses messagers soient caractérisés par cela aussi. Et finalement, le messager devrait être caractérisé par une vie. Ou est-ce qu'on peut le qualifier comme décrit plutôt comme pur et irréprochable? Et cela ne veut pas dire que le messager doit être un homme parfait ou une femme parfaite. Pas du tout. Mais l'idée ici, c'est cette personne-là devrait être en train de progresser dans la sanctification. Quelqu'un qui reconnaît la valeur du sang de Jésus pour purifier les péchés et qui se purifie quotidiennement par la repentance et la confession du péché selon 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà comment est-ce qu'on vit et on progresse dans la sanctification et on peut être justement, quelqu'un peut nous décrire comme un étant pur et irréprochable. Et ça, c'est le message de l'Évangile. On appelle les gens à la repentance et on les invite à connaître le pardon de Christ à travers le sang de Christ versé à la croix pour payer la dette des péchés. Actes chapitre 17, verset 30, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et Éphésiens 1, 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez comment est-ce que le message de l'Évangile et les messagers sont imbriqués, sont indissociables, les deux vont ensemble. Le messager, c'est le message. Et tout cela, il y a un but pour cela. Parce qu'un jour, j'espère que je n'ai pas le temps de vous donner la fin, mais Paul y parle dans son texte du fruit. Un jour, tout croyant comparaîtra devant Jésus-Christ, devant son tribunal. On parle ici dans le texte au jour de Christ. Et le désir de Paul pour eux, c'est qu'ils aient été des fidèles messagers de l'évangile de Christ. Le désir de Paul pour eux, c'est qu'ils aient été des croyants fructueux, ayant apporté gloire et honneur à Dieu, et le désir de Paul pour eux, c'est qu'ils entendent le maître dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître au jour de Christ. J'aimerais vous laisser vous dire ici, donc, il y a la joie, comme je dis, dans la propagation de l'Évangile. Mais ça, c'est juste la pointe du iceberg, comme on dit. L'éternité nous réserve une joie plus haute que les cieux, plus profonde que la mer, une joie qui est parfaite, éternelle, une joie qu'on ne pourrait même pas commencer à décrire. Alors, en terminant, j'aimerais vous faire remarquer que l'église de Philippe est en bonne santé spirituelle. À part une petite, bon, moi, appelle ça une chicane, là. Il y a 200, là, qui, Paul, il faut que Paul y ait donné son exhortation. Et Vodi et Saint-Èche, là. Mais à part cela, dans cette église, il n'y a rien de majeur. Paul n'a pas besoin de corriger la fausse doctrine. Il n'y a pas de scandales, de divisions, de disputes, d'immoralité à réprimander. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi en est-il ainsi? Mais j'aimerais vous suggérer que l'évangélisation, une église qui être impliquée dans l'évangélisation, c'est une bonne manière de se préserver des disputes et des querelles et des divisions, parce que nous sommes en train de combattre un ennemi comme eux, et on n'a pas de temps alors de remarquer les bibites chez le voisin. Être occupé dans l'évangélisation, ça transforme. Et ma prière pour nous, lors de notre reconstruction, tant spirituelle que matérielle, c'est que le Seigneur fasse de notre assemblée une assemblée où est-ce que les membres travaillant ensemble autour de l'Évangile sont unis, dans la joie, sont attachés les uns aux autres. Comme on dit en bon québécois, on est tricotés serrés. Et exerce un fervent ministère de prière les uns pour les autres. C'est ce que l'Évangile engendre, comme nous avons vu ce matin. Et ça, c'est un beau fruit de justice que nous devrions tous désirer. Et ce matin, si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur et votre Maître, je vous invite à le faire. Vous savez, nous avons parlé ce matin de ce qui porte du fruit pour la gloire de Dieu et qui sont récompensés. Un jour, Dieu va récompenser ses serviteurs. La triste réalité, il y a des gens qui ne portent pas de fruits. Et Dieu dit ceci, que ces gens-là seront retranchés. La Bible dit qu'un jour, eux aussi apparaîtront devant le Seigneur Jésus-Christ, non pas pour entendre ses biens, bons et fidèles serviteurs, mais malheureusement pour entendre, retirez de vous, de moi, allez dans le feu préparé pour le diable et pour ses anges, pour connaître une éternité de souffrance. Vous savez, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Christ, par amour, comme j'ai mentionné ce matin, a souffert pour nous, pour vous, pour moi, a payé la dette de nos péchés. Et ce matin, l'Évangile est prêché. Dieu, à travers Jésus-Christ, vous invite à vous repentir de vos péchés et d'accepter son pardon et le don merveilleux de la vie éternelle. Je termine avec un verset biblique. Le texte dit ceci, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ah, que c'est beau. À l'Évangile, quel bel, beau message, quelle belle vérité. Et vous savez, c'est la plus importante décision de votre vie, ici-bas sur la terre. Et si vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur personnel, ce matin, je vous invite à le faire avant qu'il ne soit trop tard. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces belles vérités que tu nous as laissées. Merci pour le message de l'Évangile. Message d'amour et de grâce d'un Dieu trois fois saint. Un Dieu qui exhorte les gens à être réconciliés avec lui à travers son Fils. Merci aussi, Seigneur, que tu as usé de grâce à notre égard. Tu as commencé en nous cette bonne œuvre et, Seigneur, nous voulons être rassurés. Et nous savons que tu vas continuer cette œuvre. Tu vas la rendre parfaite pour le jour de Christ. Alors bénis ton Église ici au Cap de la Madeleine, Seigneur, c'est ton Église. Tu as promis de la construire et tu as dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors Seigneur, nous voulons nous placer entre tes bonnes mains. Faire une œuvre, Seigneur, qui va même porter des fruits, même jusqu'à dans l'éternité, dans chacun de nous, individuellement et collectivement. Et faire en sorte que dans notre nouveau bâtiment, et lors de cette nouvelle reconstruction, tant matérielle que spirituelle, nous soyons reconnus pour une Église qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, continue à faire ton œuvre. Nous savons que tu le feras parce que tu persévères. Et si ce matin, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta compassion, nous te demandons de donner cette révélation. Ouvre leurs yeux et en sorte qu'ils puissent venir au pied de la croix et accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire.